Bonsoir, bonsoir à tous. Eh bien, ah ben, il y a du monde dans le studio. Eh bien, il y a je crois qu'il y a vraiment beaucoup de monde dans le studio. D'abord, c'est rien que des bavards. Alors, l'émission n'a pas commencé et vous êtes déjà en train de discuter. Eh bien, je vous félicite, bravo. Je sens que... Ah bon, alors déjà, j'ai salué bien sûr Michel. Et j'ai tout de suite le dire, c'est grâce à Michel que ce soir, nous avons un invité de Lutz, un invité, moi, qui va me faire rentrer dans ma petite coquille, tout dans un petit coin du studio. Ah, je vais l'écouter. Et avec, ben voilà, c'est donc un pilote d'Air France. Qui se sait. Et voilà, c'est un pilote d'Air France qui est avec nous ce soir. Je vais d'abord, et il a piloté, bien sûr, beaucoup d'appareils, vous le verrez, c'est extraordinaire. Il y a tout, quoi. Bon, moi, je suis là pour écouter, je l'espère aussi. Mais avant toute chose, j'ai quand même passé la parole à Michel, qui a peut-être quelques petites informations à vous donner. Michel, tu m'entends?
Ah oui, salut Claude, comment vas-tu?
Eh ben, très très bien, et toi? Alors, quelques petites infos pour démarrer?
Ben, très très bien. Oui, très très rapidement, juste deux ou trois annonces, parce que comme on a beaucoup de retard sur les infos depuis 15 jours à peu près, donc je vais pas tout reprendre. Je voulais juste signaler un point sur le org, un utilitaire extrêmement bien foutu qui s'appelle ClearTump, je l'ai essayé ce soir. C'est quelque chose qui permet de nettoyer dans les zip ou dans les dossiers d'avion ou de scène. Les fichiers spécifiques Mac quand on est sur PC, ou inversement, les fichiers spécifiques PC quand on est sur Mac. Donc ça c'est pas mal pour gagner de la place sur les disques durs. C'était ma première annonce. Ma deuxième annonce maintenant, c'est de dire que XPR organise samedi après-midi un vol spécial, un vol événement. Le but étant de rejoindre Balmulhouse entre 18h et 18h30. Et donc tous ceux qui viendront et qui arriveront à cette heure-là, ça sera génial, ça sera très très sympa. Donc vous partez de n'importe quelle plateforme XPR que vous voulez, et puis vous arrivez entre 18h et 18h30, Balmulhouse. Et puis troisième annonce, lundi soir, la cinquième étape du Tour de Bretagne, lundi soir à 21h. Voilà. Tout de suite, bonjour Patrice, comment vas-tu?
Bonjour Michel,
ça va?
Très très bien, alors, merci, parfait. Merci de m'accueillir en tout cas.
Ah oh bah non, c'est un
alors,
plaisir
Patrice
pour nous.
Donc,
oui, je t'en prie Michel, non mais je te laisse la parole, il n'y a pas de problème. Nous vous écoutons avec beaucoup
okay,
d'attention.
Ok Claude, tu interviens quand tu veux.
Hein. Bien sûr, je vais me gêner, tiens.
Bon, très bien. Donc Patrice en effet est pilote chez Air France depuis un certain temps maintenant, puisque... Il est plus proche de la retraite que de la sortie de l'ENAC, malgré tout. On a des âges pas très 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 éloignés. Puis donc Patrice oui. a volé chez Air France donc sur un grand nombre d'appareils, mais surtout il a passé 10 ans donc sur Concorde. Donc on va beaucoup parler de Concorde. Et en ce moment, avec la fin de Concorde, il est sur 777, donc sur Boeing 777. Alors Patrice, moi ce que je voudrais d'abord, en premier lieu, c'est que tu nous racontes un tout petit peu, d'une manière un peu brève quand même, qu'est-ce que tu as fait à la sortie de l'ENA? Comment ça s'est passé d'abord cette première période et quels sont les différents avions sur lesquels tu as volé donc? Vas-y.
Alors à la sortie de l'ENA, c'était en 83, en 1983, où Air France ne recrutait pas puisque... commençait le recrutement, c'est par vague et pas de peau. Là, c'était le creux de la vague. Donc, je dirais pas livré à nous-mêmes, mais presque avec mes collègues. Chacun cherchait du travail et personnellement, j'ai rapidement trouvé un travail en Afrique. Donc, à Abidjan, la compagnie s'appelait Air Inter-Ivoire. Les avions, c'était des Aztèques, des Piper Aztèques. Et on allait donc sur les terrains de brousse, emporter du personnel et du fret. Et nous, on sortait de l'école tout frais, donc avec un PP1 par dérogation à l'époque.
Mais dis-moi, c'est complètement dingue, parce qu'avec une expérience comme ça, à peine sorti d'école, tu vas tout de suite en Afrique, où c'est quand même des conditions un peu particulières, avec des avions un peu particuliers comme ça. Donc c'était du transport de personnes, du transport de fret.
Oui, avec cette licence qu'on avait, donc par dérogation, on était quand même pilote professionnel, PP1 par dérogation, mais il était possible de faire du transport aérien sur des avions dépassant pas 5 tonnes 7, c'était le cas avec le Piper Aztec. Et c'était une transition qui nous a permis d'acquérir une certaine expérience, puisque sortant d'un un moule assez bien défini, on se trouvait là dans des conditions complètement, je dirais, un petit peu improvisées. Et puis les aventures commençaient sur ces avions-là.
Alors, justement, en termes d'aventure, je suppose que les dialogues avec le contrôle, les autres pilotes, la compagnie aérienne, tout ça, c'était rigolo, c'était sympa.
Oui, alors nous on restait toujours dans le cadre de l'instruction qu'on avait reçue, donc il fallait s'adapter évidemment aux conditions locales, et puis ne pas faire, je dirais, trop comme à l'école dans un certain sens. Il fallait accepter de faire des choses un peu plus rapidement, et puis d'approfondir certaines choses qui nous paraissaient pas encore très claires. Et évidemment, on allait quand même sur le terrain qui était situé à 3h30 ou 4h de vol depuis le point de départ d'Abidjan. Donc c'était en plus au travers le front intertropical avec des cumulonimbus qui montaient très haut, hein, montaient à la tropopause. Nous, on était en croisière à peu près à 12 000 pieds, grosso modo. C'est pour te dire qu'on faisait les pleins. Moi, je faisais les pleins complets tout le temps, déjà, première chose. Et puis, les avions étaient, comment dire,
est-ce que tu veux dire,
étaient lourds.
Ils étaient lourds.
Les avions étaient lourds.
Oui, je vois, oui.
Alors, il m'est arrivé évidemment des petites aventures. Entre autres, j'ai essayé de décoller trois fois, une fois. Au premier décollage, au premier roulage déjà, mon horizon ne se lançait pas, mon horizon a soufflé, donc là il fallait dépanner, on pouvait pas faire des vols dans les nuages sans horizon, c'était pas sérieux. Premier dépannage qui a pris un certain temps, ensuite on repart, cette fois je mets en route, je me souviens encore du mécanicien de piste qui dehors me dit « Stop patron, coupe les moteurs tout de suite », il me fait un signe de la main en croix. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'avion avait un problème de pression pneu. C'est-à-dire qu'en fait, il penchait. Il me dit, ton avion, il penche, patron. Je regarde, il dit, t'as raison. Et pourtant, j'avais fait une prévol, etc. J'avais pas décelé. Et puis, en effet, il y avait un problème de pneu tout à fait récent qui était intervenu sur l'un des trains d'atterrissage. Donc, on a réparé encore une fois. Et ensuite, pour regonfler, bon, bah, il est arrivé avec sa bouteille d'air, et puis il a mis un petit peu d'air dans chaque pneu, il me dit, ça y est, tu peux y aller, ton avion, il est droit.
Eh ben, c'est bien.
Ok, on s'en
va. Je vois, ouais.
Alors, on s'en va, on essaie de décoller, déjà, et puis cette fois, on décolle. Alors, on arrive à décoller sur le terrain d'Abidjan, sur la grande piste, on avait largement de quoi faire pour décoller avec un Piper Aztec, et puis, après décollage, je rentre le train, donc j'étais tout seul à bord avec mes passagers, je rentre le train, et sur le fuseau gauche de l'Aztec, il y a un petit miroir qui permet de voir la roulette de nez rentrer. Je vois ma roulette de nez commencer de rentrer, et puis d'un seul coup, un grand choc, paf, elle retombe, la roulette de nez rentrait pas. Ah, alors ça, c'est pas terrible, parce que faire 3h30, 4h de vol avec le train sorti, c'est difficile. Je dis, bon, je préviens le contrôle, que je maintiens les éléments dans un premier temps, et puis je refais un essai de train, donc je rentre le train. La signalisation était normale, je ressors le train, c'est le contraire, j'ai ressorti le train et je l'ai rentré ensuite, et les trois vertes devaient s'effacer, avec les trois rouges transitoires et plus de lumière, donc pour dire que le train était bien rentré. En plus, je jette mon petit coup d'œil sur le fuseau, sur la glace du fuseau, et là, maintenant, on voulait donner, commence à rentrer, puis redescend. Ouais. Bon, c'était raté, c'est pas une solution d'avenir. Cette fois, c'est le contrôle, problème technique, le train d'atterrissage. Donc, virage à gauche, tour de piste. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais comme j'ai appris à l'école, c'est-à-dire un passage à 150, je crois que c'est 150 mètres ou 150 pieds, c'est 150 mètres au-dessus de la tour de contrôle, visualisation par le contrôleur avec les jumelles pour voir si mon train était réellement bien sorti. Et je me souvenais du patron. Alors voilà, en fait, le problème de train, c'était connu, c'était arrivé à mon collègue précédent, le jour précédent. Ce qu'il y avait eu, c'était de la boue dans la crémaillère, hein, et le cette boue avait bon avait provoqué le jour précédent cette panne de train qui apparemment n'avait pas été réglée. Donc moi je me retrouvais avec la même panne et le copain lui avait eu un petit sermon de son patron parce que lui avait fait donc son passage à une certaine distance de la tour qui permettait de voir si le train était bien sorti, mais ça lui avait bouffé une demi-heure de carburant. Ouais. Le patron lui a dit vous êtes plus à l'école, vous avez vos trois verres, vous vous posez, hein. Donc j'étais dans ce dilemme. Alors sachant ce que c'était exactement, je me suis dit tant pis, je ne fais pas la visualisation aux jumelles. Je me pose. Par contre, je me pose avec de la vitesse, oui. Hein, et je rends la main doucement pour voir si la roulette donnée est bien stable, entre pas. J'avais mes trois vertes. J'avais une bonne météo, j'avais tout ce qu'il fallait, j'avais une énorme piste, j'avais tout ce qu'il fallait pour bien me poser. Bon, j'ai pas fait cette visualisation jumelle. On s'est reposé, le train avant a bien tenu, on est retourné au parking, au hangar, pour la Bravo. Troisième fois, mes pauvres passagers, ils étaient complètement malheureux.
Enfin, si je peux me permettre, Michel, hein, c'est pas toi qui aurais une panne de train, hein. T'es pas du tout le genre. Donc, on va continuer.
Ouais. Tu sais, j'ai déjà eu des pannes de char. Hein.
Ah, bon, pardon, d'accord.
Mais Patrick, alors, après, dis-moi un peu. Bon, ça c'est l'épisode d'Afrique. Là, si on te laissait parler sur toutes ces histoires africaines, on en aurait...
Oh là, il y a pas mal d'aventures, oui. Oui.
Alors, ensuite, une fois que tu as quitté donc ce merveilleux pays, l'Afrique, qu'est-ce que t'as
fait ? Alors j'étais parti en Afrique avec deux possibilités. D'une part l'Afrique et j'avais avant pris des devants, j'allais dire, une communication avec la compagnie Luxair au Luxembourg qui avait des Fokker 27 et Boeing 737. J'avais pas eu de réponse depuis un certain temps et comme j'avais cette possibilité de partir en Afrique, j'y suis parti puisque c'était le premier job que j'avais, que je prenais. Et puis étant en Afrique, j'ai eu la possibilité de revenir en fait au Luxembourg. Donc je suis revenu après, je ne vais pas tout vous raconter parce que c'était aussi une péripétie, mais au bout d'un mois, je dirais, en préservant quand même la compagnie, mes collègues qui venaient derrière, etc., j'ai pu revenir devant le directeur commercial de Luxair pour signer un contrat d'un an renouvelable à l'époque. Et donc, il y a eu un temps d'essai. À la suite du temps d'essai, donc j'ai pu avoir un contrat sérieux sur Fokker 27 dans un premier temps, et je dirais même pendant 2 ans et demi qui m'ont fait attendre Air France. Donc là, c'était au Luxembourg, la base était au Luxembourg, les avions étaient, je dirais, bien entretenus, alors, la compagnie était sérieuse.
Qu'est-ce que c'était comme Fokker 27 et puis qu'est-ce qu'il y a eu aussi?
Si tu veux, j'ai fait que des Fokker 27 parce qu'il y avait une liste de seniorité très défendue. D'accord. Évidemment, c'était quand même une compagnie restreinte avec des pilotes qui étaient de différentes nationalités. Il y avait donc des Allemands, des Autrichiens, des Anglais, quelques Français, dont nous. Parce qu'au Luxembourg, il n'y avait pas d'école de pilotage. Donc, les pilotes allaient faire leur...
Et tu y es resté combien de temps à peu près au Luxembourg?
Deux ans et demi au Luxembourg. Et Air France nous a ensuite rappelé. Pour rentrer sur l'avion de base, sur Boeing 727.
Voilà, donc Boeing 727, ça a été la première grande aventure, parce que c'était quand même un bel
c'était
avion.
C'était le paradis.
C'est un avion qu'on pouvait encore piloter, c'était pas un avion où tout se faisait par le FMS.
C'est vrai. Bien sûr.
C'est un avion d'ancienne génération, donc avec un mécanicien navigant, et c'est un avion, comme on dit, qui avait de la défense, oui. Nous, on était donc dans le cockpit tout à fait à l'avant de l'avion, les moteurs derrière. C'était un avion relativement silencieux quand même pour l'époque. Et puis, c'est sur cet avion-là que nous faisons, nous, les élèves pilotes, parce que quand on rentre à Air France, on n'est pas encore pilote de ligne. Le pilote de ligne s'acquiert en compagnie après 1500 heures de vol. Et donc, on continue de voler jusqu'à ce que cette butée de 1500 heures arrive. Et la compagnie nous fait à ce moment-là passer le pilote de ligne complet. Personnellement, donc, j'ai fait 5 ans sur cet avion, sur Boeing 727. J'ai donc passé le pilote de ligne. Et puis, il a fallu ensuite l'amortir, puisque quand on fait une qualification, ça a un coût et donc une durée d'amortissement. Pour moi, ça a été 5 ans sur cet avion-là, pour ensuite changer d'avion et faire de l'Airbus 310.
Ah, d'accord.
310 qui était encore à 3, deux pilotes et un mécanicien navigant. Alors, faisant des avions de l'ancienne génération à trois, j'étais prêt pour le Concorde, puisque l'avion était aussi à trois.
Bah oui.
Enfin, quand même, l'A310, c'était aussi quand même une aventure, au sens où le 727, bon, c'est un avion qui se pilotait quand même beaucoup. L'A310, oui, ça commençait déjà à être pas mal automatisé. Déjà, le glass cockpit existait, il y avait déjà pas mal de choses qui commençaient à exister. Alors du coup, en passant sur Concorde, puisque en fait, tu es passé de 310 à Concorde, il y a eu une étape au milieu?
Oui, mais... Oui.
Non, non, il n'y a pas eu d'étape au milieu, simplement...
Non, tu es passé d'un avion à 310, qui commençait déjà à être un avion relativement moderne déjà à l'époque.
Hein, semi-moderne.
Semi-moderne, oui.
Ouais.
Semi-moderne, ouais. Ouais.
Alors à Concorde, qui est un autre monde, un mythe, une légende, quelque chose, une merveille. Alors raconte-nous un peu Concorde.
Attends, Patrice, j'ai une petite question pour question, Patrice. Simplement, quel est le premier avion qui a été vraiment piloté à deux, avec tous les problèmes qu'on a connus à l'époque, bien entendu, de grève d'ailleurs des pilotes d'Air France, entre autres. C'est quel avion? C'est la 320 qui a été le premier piloté à deux ou...
Ah non, non, c'est le non. premier piloté à deux, c'est l'avion par lequel j'ai pu rentrer Air France, c'est lui qui m'a fait rentrer Air France, quand l'acceptation des syndicats et des pilotes en majorité ont accepté le pilotage à deux Air France, et c'était le Boeing 737.
Ah ouais, d'accord. Ça,
c'est l'arrivée des Boeing 737 Air France qui a ouvert la soupape et qui m'a permis de rentrer dans la compagnie, en fait.
D'accord. Bon, ben, écoute,
ensuite est venu, oui, bien après la 320, tous les Airbus.
Ouais, c'est plus récent. Ouais,
donc, voilà, le 737, c'était aussi un avion de base et j'aurais pu commencer sur Boeing 737. Mais à l'époque, on avait pas le choix. C'était la compagnie, la direction qui nous disait, vous, la promotion Intel, vous allez sur 737 ou une partie de la promotion. Vous irez sur 727, etc. C'était les avions de base de l'époque, 737 et 727.
Bien sûr. Ok. Donc Michel, ben voilà, Concorde, tu peux reprendre.
Concorde,
on
va à Concorde.
Ah, eh ben voilà, on y va.
C'est formidable, Concorde.
C'est un Claude.
Oui,
quand
tout
on apprend,
fait,
le jour
sûr.
On apprend qu'il y a possibilité de faire une qualification sur cette machine, c'est toute une carrière, je dirais, qui réapparaît. C'est pour moi, ça a été un des sommets de la carrière.
Alors, d'abord, je pense qu'on commence sur simulateur, parce que Concorde, c'est un avion qu'on apprend d'abord au sol, énormément au sol.
Alors, exact.
Exact. Mais alors, dis-moi tout.
Oui.
C'est un simulateur.
C'était à Toulouse.
C'est un simulateur comme j'ai moi sur mon bureau, là? Non, peut-être pas tout à fait.
Oui, c'est ça, c'est avec X-Plane. On fait tout avec X-Plane. C'est
d'accord.
Alors, la représentation est assez fidèle, oui, des simulateurs que j'ai vus.
Oui.
Le simulateur, le vrai, a servi aux essais de l'avion, donc c'était un simulateur qui était quand même assez assez bien fait et assez réel. C'est une qualif qui demandait 5 mois de qualif par rapport aux avions traditionnels où la qualif est un peu plus courte, hein, c'est entre 2 et 3 mois. Le Concorde, c'était un avion complètement particulier et on partait pour 5 mois de qualif. Alors, la qualification se faisait par étapes, évidemment. Hein. Il y avait tous les bancs au sol qui permettaient de se familiariser avec chaque panneau, donc carburant, pressurisation, électrique, pneumatique, etc. Ça, c'était les premières parties. La première partie, en fait, c'était les boîtes. D'abord, l'instruction, ce qui est normal, l'instruction théorique. Ensuite, le passage sur les petits bancs, où on commençait à toucher au bouton, où l'instructeur, qui est un monsieur remarquable, je ne sais pas s'il écoute, on ne sait jamais, monsieur André Blanc, qui était un ancien ingénieur d'essai lors des premiers vols du Concorde, et il avait forcément des anecdotes d'époque à nous raconter, c'était formidable d'avoir une qualification avec lui. C'était lui qui nous monitorait sur les principaux circuits de l'avion, donc fixe au départ au sol. Ensuite, on montait dans le simu pour toucher au bouton à l'organisation générale des systèmes, mais dans un simu fixe. Une fois qu'on avait digéré un petit peu toute cette instruction, le simu commençait à bouger. Et là, il fallait déjà 20 heures de simulateur pour s'habituer à un pilotage normal. C'est-à-dire que la technique d'utilisation normale sur cet avion demandait déjà un nombre important de simulateurs, d'heures de simulateurs. Ensuite, après 20 heures de simulateur normal, on commençait quelques pannes. pour avoir une checklist de panne, un bouquin qui était quand même assez épais. Et je dirais pendant 2 mois on n'arrêtait pas. Hein. C'était des pannes ouais. moteur évidemment avec 4 moteurs, un ou deux en panne.
Ça t'a quand même pas mal servi, hein.
Ben oui, j'imagine.
Ça a servi, oui.
Et Patrice,
il faut dire quand même, il faut dire quand même que Concorde à cette époque, c'est que, déjà Concorde avait un certain nombre d'années. C'était pas un avion récent, donc. Lorsque toi tu es devenu pilote sur Concorde, donc Concorde déjà était exploité dans la compagnie et Concorde était un avion analogique, c'est-à-dire c'est pour ça que je disais tout à l'heure, passer d'un 737 ou d'un Airbus A310 à Concorde, ça a fait quand même un changement de monde. C'était à la fois un avion, je dirais une voiture de course comparée à une Logan ou à n'importe quoi, mais en même temps dans une technologie qui était hyper redondée, mais en même temps très très particulière. Alors, le premier vol, comment est-ce que du coup tu as pu l'aborder comme ça?
Oui, le Concorde ancienne génération, c'est vrai, et c'est pour ça que les pilotes d'ancienne génération, comme moi, j'allais dire, avec ayant connu le pilotage A3, je dirais qu'ils étaient un petit peu favorisés parce qu'on avait l'habitude de piloter les avions à travers un manche traditionnel avec des sensations d'époque, des restituteurs d'efforts. Le Concorde ressemblait à tous ces avions-là, et c'est un avion qui se pilotait aussi aux fesses. Voilà. Il fallait piloter aux fesses. L'Airbus 310 avant, que j'ai connu avant, c'est vrai qu'on regardait davantage les écrans, c'était une autre philosophie de pilotage. Et là, je revenais dans le passé, je revenais à l'ancienne philosophie de pilotage, donc que j'avais connue avant.
Sauf que c'était une voiture de course, au lieu d'être une...
Alors, c'était une voiture de course extraordinaire, l'accélération au décollage, c'est celle d'une Formule 1. On est propulsé littéralement, on est vraiment sur son siège, on est adossé, l'avion avec sa post-combustion, ses 4 moteurs plus la post-combustion, avec l'accélération d'une Formule 1, ça poussait énormément. Du fait qu'il n'ait donc pas ses volets d'hypersustentation et ses becs de bord d'attaque comme les avions traditionnels, il fallait donc beaucoup de vitesse pour pouvoir le sustenter. Étant sustenté, on décollait rapidement, le paysage défilait sur les côtés très très rapidement. On atteignait les vitesses de sécurité au décollage. Et puis le but, c'était de mettre cet avion à plat le plus rapidement possible. On était forcément, une fois monté, le plus rapidement possible, il le met à plat. Donc, on avait toujours ces contraintes d'environnement, de procédures anti-bruit, etc., qui nous pénalisaient un petit peu, parce qu'il fallait monter très vite, donc très cabré, à 3000 pieds, pour ensuite couper la post-combustion, etc. Et on accélérait vers Mach 95 en montée, ensuite on remettait la post-combustion pour passer le mur du son, et l'avion progressivement montait et l'incidence diminuait, se mettait à plat. À Mach 15, on coupait la post-combustion, et l'avion était suffisamment à plat, donc pas trop de traînée pour accélérer de lui-même jusqu'à Mach 2. Ça, c'était le décollage.
Alors, ça, c'est le décollage. Bon,
ça, c'est décollage. Ensuite, la montée ascendante jusqu'à 52, 54, 56 000 pieds, voire presque 60 000 pieds.
Oui, alors, on n'atteignait pas tout de suite 52 000 pieds ou 58 000 pieds. En fait, l'avion à pleine charge et plein de carburant, on atteignait assez rapidement entre 42 et 45 000 pieds. Et ensuite, on était en croisière ascendante entre 45 000 pieds et 600. C'est-à-dire qu'on a une tirance dès le départ d'épaisseur de niveau entre 45 et 60. Et au bout de la croisière seulement, on atteignait des fois le niveau 600, qui était le plafond de l'avion. À Mach 2. Au départ, on atteignait donc 42, 45 000 pieds. Et ensuite, suivant la température de l'air et suivant la masse de l'avion, donc le délestage, on montait ou quelquefois on descendait. On avait un pilote automatique qui, lui, était réglé sur la VMO, la vitesse maximale, le VMO MMO, maximale opérationnelle, et la TMO, la température maximale opérationnelle. C'est que l'avion chauffait avec l'énergie cinétique et la vitesse de l'avion. L'avion chauffait, se dilatait de 15 à 20 cm sur la longueur, et ça se voyait. Ça se voyait au niveau du panneau mécanicien, c'est-à-dire qu'au sol, entre la fin du panneau mécanicien et le début de la cloison de l'avion, on pouvait glisser quelques feuilles de papier. arriver à Mach 2, à un échauffement de 127 degrés maximum sur le nez, à ce moment-là, on passait la main entre ces deux panneaux, ce qui témoignait physiquement de la dilatation de l'avion.
Ça fait peur, non ?
C'était prévu bon, au d'accord. Niveau des câbles non, électriques, Claude, vous voyez, les torrents de câbles.
Claude, il faut faire un peu confiance aux ingénieurs, non mais alors...
Oui, mais j'ai un peu... Mais j'ai les jetons, moi, quand j'entends ça.
L'avion avait des marches, évidemment, par rapport à cette température maximum. Hein. C'était pas 127 degrés pour l'avion, hein. C'était alors, plus de 160 degrés, l'avion.
Dis-moi un peu, Patrick. Alors, donc, bien sûr, donc on fait la croisière ascendante, tout va très très bien. Bon, si c'est un vol Paris-New York, on commence à arriver pas très loin du Groenland, etc. Et puis tout d'un coup, on se met à descendre. Alors, racontez-nous un peu ça. D'abord, on ralentit. Oui. 350 nœuds.
Oui, c'est ça. On se met au milieu du domaine de vol. Et puis, on commençait notre descente à la vitesse indiquée constante. L'avion n'avait pas une finesse extraordinaire, donc ça descendait très rapidement. Si on n'avait pas assez de il fallait atteindre un niveau très rapidement, on avait encore la possibilité de tirer les revers, oui, 2 et 3. Donc on pouvait aussi se servir des moteurs 2 et 3, ce qui augmentait le taux de chute. Alors là, je peux vous dire que le vario était collé en descente. Hein. Il allait à 7-8 000 pieds, si je me souviens de la butée, mais l'aiguille était collée en descente.
Oui. Sortez les sacs, au secours
Avec les revers, avec les deux moteurs en revers.
Ah, je ne pensais pas que vous pouviez mettre les revers comme ça en vol.
Ah oui, c'est le seul avion où tu peux avoir les revers en vol.
Ah, je savais
mais
pas.
Normalement, elle a dit qu'elle se fait entre 3, voire 5 000 pieds, 3000 pieds, 5000 pieds, et là on arrivait à atteindre 7000 pieds par minute.
Ah oui. Voilà. Avec les revers déployés, c'était très très spectaculaire, le taux de chute était spectaculaire. De même que le taux de montée était spectaculaire avec la post-combustion, le taux de chute aussi était spectaculaire.
Alors dis-moi un peu, les atterrissages à New York ou à Paris, ou les décollages d'ailleurs, ça se passait toujours très très bien?
Ah, l'atterrissage sur Concorde, c'était quelque chose de complètement différent des autres avions. C'est-à-dire que dans nos manuels d'utilisation, il y avait beaucoup marqué « faites ci, faites ça, sauf Concorde ». Et entre autres, l'atterrissage sur Concorde, c'était pas du tout les réflexes, les façons de manœuvrer étaient différentes de tous les autres avions de ligne. Entre autres, il fallait pas casser la trajectoire à 30 pieds. Il fallait laisser l'effet de sol se produire, c'est-à-dire en fait ne toucher à rien, ce qui est difficile quand l'avion se rapproche du sol, de ne rien faire, parce qu'on se dit « il va se passer quelque chose ». Eh bien non, l'effet de sol se produit à 50 pieds. Si on ne touche pas l'énergie à la poussée, à ce moment-là, l'avion efface la piste à 50 pieds. Et ce qui fait l'arrondi, c'est en fait, une fois que l'effet de sol s'est produit, on enlève un petit peu d'énergie à la manette de poussée, on laisse le nez commencer à tomber et on empêche le nez de tomber. Et par perte d'énergie, l'avion s'enfonce un petit peu et là, on essaie de toucher la piste pas trop dur. Ça, c'est tout l'art de l'atterrissage, comme chacun sait. Il faut poser l'avion sur un point précis, si possible pas trop dur, et surtout ne pas manger de piste. Puisque tous ces kiss landing que nos passagers applaudissent et éventuellement nos PNC applaudissent pour ceux qui ne savent pas, c'est pas un bon atterrissage un kiss landing. Un bon atterrissage pour nous pilotes, c'est un atterrissage précis, un atterrissage qui va sur un point ou vraiment peu de distance après ce point.
Ça, c'est la technique Air France, parce que c'est variable suivant les compagnies, mais Air France, oui, il faut qu'on pose et qu'on pose un petit peu dur. C'est vrai, c'est comme ça. Alors dis-moi, bon, Concorde, c'est merveilleux parce que ce sont des voyages sensationnels. Bon, bien sûr, c'est Paris-New York, c'est bien sûr Rio de Janeiro, Dakar, c'est tout un tas de choses comme ça. Mais il y a eu aussi des beaux tours du monde, dis-moi. Alors c'est tour du monde. Et puis alors les hôtesses, il paraît que les hôtesses à bord, ça c'est Claude qui m'a demandé de poser la question.
Ah bah oui, alors moi je voulais
poser la question, il m'a dit les hôtesses, il paraît qu'elles sont superbes.
Ah oui.
Elles sont choisies spécialement.
On veut tout savoir sur les hôtesses.
Ah
on
les hôtesses Concorde étaient superbes et je dirais un peu triées et parmi tout le personnel.
Triées sur le volet, bien sûr.
Ouais,
voyons.
Même fatiguées, elles sourient. Pour ça, c'est un résumé, mais elles sont capables de travailler, de faire 3h30 non-stop et de sourire encore à l'arrivée et d'accomplir toutes les missions possibles, y compris avec toutes les pannes qu'on avait. Donc, il est possible de. C'était formidable.
Quand tu veux dire travailler.
Personnage.
Quand tu dis travailler. Quand tu dis travailler, travailler, s'occuper des passagers, c'est ça, hein.
Oui. Et des pilotes, oui. Alors,
et des pilotes, mais bien sûr, bah, j'espère, elles sont sur toutes les...
Oh, c'est mignon.
Évidemment, je travaille en cabine, il y a ce qu'on appelle le galérien, c'est le PMC qui est au galet, et puis il y a aussi deux repas, il fallait qu'ils soient servis rapidement, et entre, à peu près entre, je dirais, le 10 et 15 ouest, on avait vraiment une période pour manger, très rapide, et en même temps qu'on mangeait, il y avait des choses à faire. Hein. Ah, mais la nourriture était délicieuse. Hein.
Ah, c'est quoi, tu n'arriveras pas à lui servir des bêtises, non, tu n'y arriveras pas, il est trop professionnel.
Allez, fais-nous rêver.
Si dit, on avait droit aux petits bonbons avec l'amande au décollage chocolaté qui était délicieux. On avait droit à des petites gâteries sucrées. Hein.
Ah, oh, voilà, on y arrive. On y arrive, les petites gâteries. Ouais, Michel, tu vois, on y arrive,
tout
les petites gâteries.
Tout doucement.
Eh oui.
Alors, il faut savoir que dans le Concorde, il n'y avait pas la place de mettre des postes de repos. On n'avait pas des lits comme sur nos avions de ligne long courrier. Donc, c'était un petit peu restreint. Même pour aller à son siège, il fallait déjà avoir une qualif. On se glissait entre le panel et puis le siège. Et pour manœuvrer le siège, il fallait déjà une qualif. Enfin, c'était un avion. On était en admiration devant ce cockpit extraordinaire, rempli, un peu étroit, mais formidable. Quoi.
Comme une Formule 1. Alors, dis-moi un peu, il est vrai que Concorde était d'une fiabilité extraordinaire. Il y a eu cet accident, c'est vrai, on en a trop parlé, d'ailleurs beaucoup trop, parce que si on parlait de tous les accidents comme ça, je crois qu'il n'y aurait plus de compagnie aérienne. Mais malgré tout, c'est un avion hyper fiable. Mais à la fin, vous aviez quand même beaucoup de petites pannes. Je ne parle pas de pannes majeures, mais par contre, très souvent, vous étiez un petit peu sur le qui-vive, malgré les redondances. Est-ce que c'est vrai ?
Oui, on était à chaque vol, il se passait des choses bénignes, des fois un petit peu plus graves. Personnellement, je trouve que c'était un avion tellement bien construit et André Turcat, que j'ai eu l'honneur de raccompagner dans ma voiture à la gare Montparnasse, qui repartait chez lui, m'a dit « on vous a livré un avion en sécurité ». Et l'avion était conçu, bien conçu, terminé. Vous voyez, par exemple, en transsonique, donc avec une panne moteur, l'avion ne pompait pas du moteur extérieur. Ça, c'est un exemple extraordinaire. Et il fallait aller chercher le pompage un peu plus loin avec le palonnier. Alors ça, c'était un avion qui était très bien construit. Pour moi, c'était un avion qui était surdimensionné en électricité, en conditionnement d'air. Pour vous donner un exemple, avec deux hublots cassés en cabine et les quatre groupes de conditionnement d'air poussant de l'air à l'intérieur de la cabine, le vario bougeait pas. Vario zéro avec deux hublots cassés en cabine, ce qui est quand même énorme.
En même temps, il y avait toujours quelques voyants qui étaient allumés, mais ça, c'était un pillage aussi. Mais avec les redondances, il n'y a jamais eu de gros soucis quand même.
Non, on n'a jamais eu de gros soucis. On a toujours maîtrisé les événements. Les soucis qu'on avait étaient soit répétitifs, soit connus, parce que les Anglais aussi avaient des soucis. On savait un petit peu quand ça leur arrivait, ce qui allait nous arriver, ou vice-versa, on les renseignait. C'était des soucis connus. Personnellement, je montais dans l'avion sans aucune crainte. Et pour moi, c'était un avion qui était très bien construit, surdimensionné. Mais il avait quelques fragilités, les fragilités de l'époque, qui auraient pu être comblées. Ça a été comblé après l'accident, entre autres, avec le Kevlar dans le réservoir. Le pneumatique aussi a été revu par Michelin. Personnellement, je remontais dans l'avion sans problème. D'ailleurs, j'ai tenu à remonter. Absolument.
Très bien. Oui, c'est tout à fait vrai. Ça, il faut le dire haut et fort. Et il faut rappeler aussi que c'est un avion complètement analogique. Complètement analogique, quand même. Et c'était une merveille à l'époque, avec ces centrales inertielles de haute précision. On avait les mêmes, d'ailleurs, dans le militaire.
Oui, des Litton au départ, des Delco ensuite.
Tout à fait. Absolument. Oui. Donc, c'est vrai que c'était une merveille. Moi qui ai pu travailler, j'ai eu la chance en tant qu'ingénieur de travailler un petit peu sur Concorde. C'était vraiment un rêve, un véritable rêve. Et alors, ensuite, Patrice, ensuite, tu passes de la Formule 1 analogique au nec de la technique actuelle, en quelque sorte, le 770.
Oui, oui.
Alors, raconte un peu comment ça se passe. C'est un changement de monde.
Alors là, il m'a fallu un petit moment d'adaptation, je dois dire. sortant en effet d'un avion qui décolle 11 heures, qui se pose à 8h45 avant d'être parti. Et là, faire des Los Angeles de 12 heures, etc., ça m'a, au bout de 3h30, tu vois, je commençais à avoir des fourmis dans les jambes, je dis, mince, on n'est pas encore arrivé, mais non, il y avait encore 6 heures à faire.
Et en plus, 7. Et en plus, où tu ne pilotes pas, en fait.
Oui.
On pilote pas, alors, puisqu'on fait tout au glass cockpit.
Ça, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on programme l'avion au départ, donc on le pilote par la programmation. Ouais. Et puis ensuite, on pilote le pilote automatique. Quand on fait les changements de route, etc., on repilote le FMS. Mais ensuite, s'il y a des caps à prendre, s'il y a des variations, je sais pas, d'altitude, de cap, etc., on repasse par le côté manuel, bouton ou manuel.
Mais ça, est-ce que ça arrive très souvent? Ce que je veux dire, c'est, à partir d'une fois où tu es monté, à partir du moment où tu as atteint le 340 ou le 360, d'accord?
Oui.
Bon, tranquille, tu as une croisière qui va durer à ce palier-là à peu près 10 heures, en gros.
Oui.
Et puis, bien sûr, tu as les contacts radio, et puis ensuite, tu vas arriver près de l'approche avec la Star et tout ça, par exemple à Tokyo. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette phase de croisière? Raconte.
Tu voulais connaître la proportion de pilotage manuel ou automatique, grosso modo.
Oui, par exemple.
Ce qu'on fait...
Sachant que très souvent, tu décolles quand même très fortement manuel et tu atterris assez manuel. Peut-être pas l'autothrottle, souvent l'autothrottle, mais le reste, vous pouvez le faire à la main quand même.
Ouais, c'est suivant la volonté de rester entraîné, première chose, et ensuite, c'est suivant l'état des conditions d'arrivée, l'état de fatigue et les conditions d'arrivée. Quelquefois on fait, personnellement je fais toujours une approche, je termine à la main.
En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que si l'hôtesse a été gentille, tu finis à la main.
voyons.
Bon, continue, pardon.
Non.
Sur les avions, il y a toujours des manches, c'est vrai.
Bon, attention, il y a des enfants qui nous écoutent.
oui.
Soumis-nous, n'écoute pas, bouge-toi les oreilles.
Ah, j'aurais pas osé, moi, dis donc.
On garde l'entraînement, on décolle à la main, jusqu'à des niveaux variables suivant les personnes. Donc, personnellement, j'aime bien garder à la main jusqu'au niveau 100, voire au-delà. Mm-hmm. Et puis ensuite, on le reprend à la main à l'atterrissage. On garde ou pas l'automanette. Ça, c'est suivant la volonté de s'entraîner avec la poussée ou pas. Ça, c'est variable. Donc, si on le sent bien, si les conditions sont bonnes, si on a envie de s'entraîner, de garder l'entraînement, c'est que sur long courrier, on fait pas beaucoup d'atterrissage et de décollage. Sur un Los Angeles, on est trois. Donc, on se partage deux décollages et deux atterrissages entre le commandant de bord et les deux copilotes. Donc, forcément, il y en a deux qui font soit un décollage, soit un atterrissage. Et le troisième fait un décollage et un atterrissage. D'accord. Tout ça est comptabilisé. On doit faire un certain nombre de décollages et d'atterrissages réglementaires dans les 90 jours.
Alors, Patrice, sur ces avions, comme tu l'as dit toi-même, on prépare le FMS, il faut rentrer beaucoup de choses. Alors, c'est le gros avantage quand même, c'est qu'il y a les sites toutes prêtes, les starts toutes prêtes, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais les gens sur simulateur, comme nous sur Explain, croient que avec le FMS, on fait absolument tout. Or, ce qui se passe, c'est que des fois, il faut faire vachement attention au FMS. Vous êtes obligé de faire gaffe quand même, vérifier toujours les points, vérifier que vous êtes toujours sur la ligne. Fois, il suit pas très bien la loi de descente, vous êtes obligé de reprendre un peu ou d'anticiper. C'est ses fonctions. Alors, c'est vrai que c'est différent sur les avions, entre un 777 et un A320.
Oui, il y a des petites
pareil,
différences.
Quoi, aussi, hein.
Oui.
Mais alors, ce FMS, en deux mots.
Grossièrement, l'avion va suivre exactement ce qui est programmé dans le FMS. Ça,
lorsque le point est faux.
Si on a rentré un mauvais point, oui, là, il va aller sur le point qui ne sera pas celui que nous aurons rentré. Donc, il y a toujours la possibilité d'erreur humaine. Et c'est pour ça que les points sont vérifiés, je dirais, deux fois à la préparation, sont rentrés déjà une première fois en ne se trompant pas. Ensuite, ils sont vérifiés par les deux membres de pilotage qui pilotent, et ensuite sont encore revérifiés en croisière deux fois. Donc, c'est difficile de se tromper là quand même.
Tout à fait.
C'est difficile de se tromper.
Et pour les descentes en général.
Voilà, alors simple, les descentes, on les fait en cédant du FMS, en couplant le pilote automatique sur le FMS. On peut terminer avec le FMS ou le terminer. Le problème des descentes finales des contrôleurs, c'est que très souvent, ils nous donnent des directs. à ce moment-là, on est obligé de modifier les routes SMS ou bien de tout simplement afficher un heading et puis le reprendre au heading. Et puis le SMS, bah, il est dans son coin. Ensuite, on le rejoint ou on le rejoint pas pour terminer. Et il y a des, peut-être des périodes, des instants de transition où on ne se sert plus trop du SMS. Bien qu'on ait sur le cadran toujours une petite échelle qui nous indique si on est sous le plan ou sur le plan par rapport donc la référence SMS.
Mais dans ce cas-là, vous passez au Glass Cockpit direct, quoi.
Ouais. Oui, on passe au Glass Cockpit. On peut intervenir sur le Glass Cockpit à différents niveaux, soit en Air Flight Change, soit en VS. On le prend en VS avec une pente constante. Soit on le recouple en VNAV sur le plan de descente du SMS. Alors s'il n'y est pas, il va le rejoindre. Ou alors à nous de le rattraper. Si on est au-dessus du plan du SMS, il faut aller le rechercher.
On va prendre deux minutes encore. Deux petites
minutes. Oui, je t'en prie, Michel, il n'y a pas de souci.
On peut ?
Oui, il n'y a pas aucun problème. Vas-y.
Il est bavard. Hein.
D'accord.
C'est bon. Non, il n'y a pas de problème.
Non, mais juste je voudrais juste que tu nous racontes, parce qu'après, on va quand même prendre une ou deux questions. Là, il y a quand même quelques auditeurs qui ont envie de deux questions rapidement. Mais que tu nous racontes un atterrissage un peu spécial, un peu limite. Par exemple, Concorde sur la glace, un truc comme ça, par exemple.
En quelques mots, je me souviens donc de cet atterrissage à New York. Je crois que c'était sur la 22 avec une petite bosse au départ.
C'est en Concorde, je crois.
C'était en Concorde, ouais. Oui. Tu vois, je préfère en 77. En 77, j'ai pas vraiment de choses à dire sur les atterrissages. Bon, j'ai fait une remise de gaz à Johannesburg il y a pas très longtemps. Mais ça, c'était pas méchant.
C'est trop facile, on a 377, c'est trop simple.
C'était classique.
Même moi, j'y arriverais, alors.
Encore, là, j'ai quand même... oui, là... Volontiers. Là, sur Concorde, on a vu quand même arriver le bout de piste. Suite à une panne moteur, on a une réverse en moins. Et à ce moment-là, en finale, on a terminé avec du vent arrière. La piste était contaminée, c'est-à-dire il y avait du slush. Voilà, de neige, d'eau, tassée, un peu de glace, il y a un peu de tout, ça fait une espèce de bouillasse là, humide, très humide. Ouais. Quand on s'est posé, on a actionné donc les trois réverses, puis on freinait l'avion, puisque les réverses ont un haut rendement à haute vitesse. Ensuite viennent les freins qui reprennent le relais. Au moment d'actionner les freins, les releases se sont mis à fonctionner et se sont si bien fonctionné ils ont fonctionné pendant au moins les deux tiers de la piste. C'est-à-dire que l'avion ne freinait plus après. On a continué comme ça en se disant heureusement qu'il y a un peu de piste, il y avait 2500 mètres environ, et l'avion ne s'arrêtait toujours pas. Heureusement, dans le dernier tiers, une partie un peu plus sèche nous a fait freiner énergiquement. Simplement, je voyais le bout de piste arriver, les rouges du bout de piste arriver, et la vitesse toujours de quelques nœuds, l'avion ne s'arrêtait pas. Heureusement, en finale, le nez de l'avion était sur les rouges, et la vitesse était de zéro, donc ce qui a permis de ne pas sortir de piste,
limite.
Mais c'était juste, c'était vraiment juste. Les conditions étaient exceptionnelles ce jour-là, ils ont fermé l'aéroport, les Américains ont fermé les aéroports de New York, et les avions qui étaient derrière nous ont dégagé sur d'autres terrains, évidemment.
Ah, vas-y,
c'était donc, extraordinaire.
Dis-moi, Souminou, je vois qu'il y a pas mal de monde, là. Je vois qu'il y a notre ami Dominique Kimono, il y a Milan qui est là, il y a Linux aussi.
Eh bien, s'ils veulent...
Si vous voulez venir poser une question.
Tout à fait, c'est le moment. Milan, Kimono, si Vincent, si vous voulez, c'est le moment de passer dans le studio. Simplement pour nous faire un peu rêver, Patrice, le temps qu'ils arrivent. Rappelle-moi quand même les colliers quand tu arrivais à Hawaï lors de tes tours du monde en Concorde.
Le tour du monde. Ça, c'était une grande aventure extraordinaire que quand on partait 28 jours pour multiples escales. On commençait par New York, Las Vegas, où on prenait donc tous nos passagers. Ensuite, on partait sur les îles Hawaï, donc Kona, c'était le premier point de chute. Là, on était accueillis, nos passagers d'abord étaient accueillis avec toute une fanfare de jeunes garçons et filles, qui chantaient un air tahitien, le tout accompagné par des musiciens avec des guitares, et on nous remettait nous après, donc l'équipage après, un collier d'orchidées qui avait une odeur extraordinaire, qui sentait très très bon. Et ça, c'était un accueil non seulement musical, ouais, mais aussi il y avait l'odeur qui était extraordinaire.
Et les filles étaient jolies.
On se dirigeait ensuite vers une navette qui nous emmenait. Comment ?
Et les filles étaient jolies.
Les filles étaient jolies, étaient bien bouclées, en train de jouer de la musique.
Oui, bon.
C'était.
On arrête là.
C'était
on...
très très beau non, et très, très chaleureux surtout.
Arrête.
C'était très chaleureux.
Je craque.
en fait, c'est presque une communion. Il y avait les équipages, les PNC, il y avait les voyageurs qui étaient les mêmes puisqu'ils faisaient tout le tour du monde. Vous faisiez donc tous ensemble ce tour du monde pendant 3-4 jours, je crois, si je ne dis pas de bêtises. À peu près, c'est ça?
Tout le monde complet?
Oui, Concorde, oui.
C'était 28 jours pour nous, mais il y avait 28 jours, c'est pratiquement un mois. Ça, c'était le plus long. Il y avait des tours du monde plus courts, 18 jours. Il y avait quelques charters qui existaient. Il y avait.
Tu te rends compte? 28 jours avec les Polynésiennes.
Arrête, Michel, arrête! Écoute, je vois qu'il y a...
Alors, je peux te dire que nos passagers étaient très contents de voir le même équipage pendant 28 jours.
Ah bah oui.
Parce que, contrairement à, je veux pas critiquer, hein, nos amis british, donc concours british, qui eux faisaient aussi des tours du monde et qui changeaient d'équipage au milieu du tour du monde, donc nos passagers voyaient deux équipages. Pendant au cours du tour du monde, on avait 5 rendez-vous officiels dans les différentes escales, où on rejoignait nos passagers lors de cocktails, de dîners, de repas, on partageait une partie de ce temps d'escale avec eux.
De la nuit.
Alors la nuit, c'est plutôt les accompagnateurs de ces groupes qui
juste pour
qui,
danser. Pour danser, pas plus.
Pour danser, c'était possible. C'était même très bien, très convivial. On voyait nos passagers. On avait 5 rendez-vous pendant le tour du monde et on ne changeait pas d'équipage. Ce qui fait que quand on arrivait à New York au retour et qu'on quittait nos passagers, c'était pas des larmes, mais on se quittait vraiment avec nostalgie. On prenait le temps de se revoir, de se retéléphoner. C'était extraordinaire.
Une amitié, une
communication.
Bien sûr, ouais, tout à fait.
Une petite histoire, c'est quand on est arrivé à Paris, puisque c'était notre destination, notre destination lors de mon deuxième tour du monde, entre autres. Il y a un passager qui nous a fait parvenir une carte de visite à bord dans le cockpit, nous demandant, nous l'équipage, donc les trois techniques, avec nos épouses, de l'accompagner à la Tour d'Argent.
Bah voyons.
Nous avons donc été à la Tour d'Argent avec ce passager, sa femme, il avait invité une amie, une ou deux amies, etc. C'est extraordinaire.
Bah tiens,
c'est extraordinaire.
Bah, bravo, quel beau souvenir. Allez, on va.
Sinon, les escales aussi. Oui,
je t'en prie. Non, mais je voyais qu'il y avait
peut-être.
Timono.
Milan, est-ce que t'as
Milan, Timono, vous avez une question? Milan, t'écoutes?
Bah oui.
T'es un peu fort.
Alors, vous me recevez là?
Milan, excuse-moi.
Tu vas bien? Oui, alors. Moi je vais bien, oui.
Baisse ton micro.
Bah déjà, merci à Patrice pour cette excellente histoire qui nous fait rêver.
Baisse ton micro, s'il te plaît.
Oui, allô?
Baisse ton micro.
Allô, oui.
Milan. Si tu me reçois, baisse vraiment
Milan,
ton micro.
Bonjour Milan, c'est Patrice à la parole.
Oui, bonsoir Patrice, vous me recevez là?
Beaucoup trop fort.
Très bien,
Milan.
Bon alors, moi ma question Patrice, c'était de savoir si tu utilisais X-Plane, sur quelle machine, et qu'en pensais-tu? Si oui, qu'en pensais-tu? Voilà.
Alors attends, je vais répondre un tout petit peu en introduction. Oui, j'ai montré à Patrice X-Plane au sens où, Patrice, on se connaît depuis très très longtemps, on habite à côté l'un de l'autre depuis, ça se compte en dizaines d'années maintenant d'ailleurs. Oui, facile. Et c'est vrai qu'on avait joué un peu sur Flight Simulator où il me montrait un certain nombre de choses au début. Il m'a appris énormément sur Concorde, même si j'avais beaucoup appris à Super Hero aussi. Et je lui ai montré X-Plane en effet. Alors, il va te dire ce qu'il en pense, vas-y. Le peu que je... T'es montré, je t'en parle.
Alors oui, j'ai pas beaucoup vu cette Concorde en X-Plane.
Tu as volé sur Cessna, par contre.
Par contre, tu m'as fait laisser piloter un Cessna sur X-Plane.
Et je t'ai montré un hélicoptère aussi.
Un hélicoptère, grosse différence par rapport à Flight Simulator qu'on avait avant. C'est que là, sur Flight Simulator, je cherchais à me repérer, les DME, les balises, les moyens de repérage, j'arrivais pas trop à trouver, un petit peu quand même. D'autre part, le pilotage sur Flight Simulator me paraissait très simple. L'avion était auto-stable tout le temps. Par contre, alors X-Plane, on saute une étape là. on saute une étape, on est davantage réel sur la présentation. Sur tous les instruments de pilotage, on a de quoi se référer exactement. Et puis la visualisation, le côté environnemental est drôlement bien réalisé. Je crois que Michel y est pour quelque chose sur la création de certaines, certains paysages.
Paris, c'est Bertrand. Hein.
Oui, Bertrand. Tout le monde qui s'est mis.
Et voilà, Michel, au niveau de la stabilité, au niveau du pilotage lui-même, on a retrouvé quelques sensations d'avion de base qui sont sympas. Mm-hmm. Les effets moteurs, l'avion n'est pas complètement autostable, il faut le piloter.
Oui,
il faut le piloter. Ouais. Et une fois qu'il est bien trimé, c'est qu'il est bien établi sur l'axe, là, à ce moment-là, il bouge plus trop. C'est assez bien fait, c'est assez, assez réaliste. Hein.
Ah bah, ça fait plaisir à entendre.
Et alors après, peut-être que la visu, plus détaillée, on sera quand même dans un environnement qui permet de s'accoutumer avec les vraies difficultés de l'aviation.
Tout à fait. Timono, tu m'entends? Timono, tu m'entends là? Est-ce que je sais que tu pilotes alors, toi-même?
Oui.
Timono, est-ce que tu m'entends? Non, apparemment, il ne m'entend
Dominique?
Pas. Dominique, Timono, coucou.
Apparemment,
il ne veut pas appuyer sur le bouton.
Pour compléter pour Milan, c'est vrai que bon, on était sur un écran de 24 pouces, c'est pas mal aussi. C'est vrai que ça.
Ah oui, ça le fait, oui. Ça le fait. Eh bien.
Sinon, si Timono ne répond pas, Mac Linux.
Oui, je te reçois, tu m'entends?
Ah, un petit peu, oui.
Ah,
oui,
ça y est, Timono est avec nous. Oui, Dominique,
on t'écoute.
Oui, je t'entends, tu me reçois.
Oui, bonjour Dominique.
Oui. Salut, vous me recevez?
Oui, oui, poste.
Oui, oui, on te reçoit.
Oui, c'est Patrice, te reçoit.
Pose ta Dominique. Question. Pose ta question, Dominique. Pose ta question. Bon, apparemment, il ne doit pas nous entendre, je ne sais pas pourquoi. Dominique.
Vous m'en recevez, là?
Oui, oui, tout à fait, très très bien.
Oui,
vas-y.
On te reçoit 5 sur 5.
Bon, bonjour, c'est Kimono Dominique. Donc, je suis content de voir quelqu'un d'Air France qui participe à Explain un peu. Tu me reçois bien?
Oui, oui.
Oui, 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 Dominique, c'est Patrice, je te reçois bien.
D'accord, parce que moi, je ne reçois pas tout le monde. Hein. Il y a un gros bruit de fond. Bon, je suis content de voir quelqu'un. Oui, je suis content d'avoir Patrice, un ancien Air France. Moi, je suis aussi un ancien pilote de ligne. J'ai fait 42 ans de carrière dans le privé.
Ah bah, enchanté, Dominique, enchanté.
Et je suis content de voir que des gens de comme toi, comme Air France ou autres, s'intéressent un peu à d'autres choses. Moi, j'ai fait ma retraite depuis pas mal de temps maintenant et je poursuis ma carrière sur X-Plan, toi.
Bah oui, tout à fait, ça se comprend. Ça se comprend parce que c'est quand même pas loin de la réalité, j'allais dire. Hein.
Oui, enfin bon, moi je suis venu à Explain tout à fait par hasard en cherchant pour quand j'étais consultant en dehors de ma carrière de pilote, un moyen de faire de la simulation pour... Tu me reçois?
Oui, oui, vas-y.
Oui, oui, je t'en reçois. Oui, oui, je t'en reçois bien.
Vas-y.
J'ai un décalage dans le son, là, je ne sais pas pourquoi.
Oui, c'est normal.
Et donc, c'est sympa de venir me rejoindre. Et moi, j'ai fait du supersonique aussi. J'ai fait du supersonique au début de ma carrière sur militaire, en sur-étendard.
Waouh, c'est bien.
Ouais. Bravo, oui, bravo.
Ben, je n'étais pas au courant.
Tu étais sur porte-avions? Tu étais sur des bases fixes?
Oui, j'ai fait 8 ans à l'aéronaval sur-étendard à la 15F à hier.
Ah, très bien.
Bon, alors dis-moi, l'étendard, il va jusqu'à quel Mach?
On faisait Mach 1, 2, mais c'était en croisière Mach 1, 2, en piqué jusqu'à 1, 4.
Waouh.
Ah, ok. Ce qui est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, c'est déjà extraordinaire.
Ce qui est déjà pas mal.
Eh ben, c'est très...
Et je peux quand même tirer encore un coup de chapeau au Concorde. C'est voler 2h30 en supersonique à Mach 2, c'était 3h30 même, qu'est-ce que je dis? C'est 3h30 à Mach 2.
Ouais, c'est remarquable. C'était
une performance franco-anglaise extraordinaire.
J'ai fait une poche à Romanche.
D'accord, waouh.
Mach 1, 4.
Mach 1, 4. Et pour passer le Mach, tu faisais comment? Tu piquais ou ça passait le Mach en palier? Ou
non,
en montée?
En palier, même. Pas en montée, mais en palier, oui.
Ah, ce qui est déjà pas mal. C'est pas mal. Nous, on passait le Mac à 200-300 pieds minute à peu près en montée, avec 100 passagers et la charge quand même derrière. Hein. Ce qui était une performance extraordinaire pour l'époque, évidemment.
Dis-moi, Kimono, tu étais sur étendard ou sur super étendard? C'est super étendard NG, je crois, non?
Non, j'étais sur l'étendard normal. Hein. J'ai fait de l'étendard et après j'ai fait aussi également un peu d'alizé. Mais j'ai pas. Mais ça remonte dans les années 60, hein. C'est pas d'aujourd'hui.
Oui, d'accord. Non, non. Okay.
Et tu sais ce qu'on va faire?
Est-ce que tu as une question pour Patrice?
Tu sais ce qu'on va faire, Kimono? Moi, j'avoue.
L'étendard n'était pas un avion d'interception. Hein. C'était un avion d'assaut à basse altitude, en fait. Hein.
Oui, tout à fait, oui. Ouais, je le vois très bien, cet avion. Tu sais ce qu'on va faire, Kimono?
Très bien, ouais.
Je me permettrai...
Et dis donc, tu avais le droit de passer le Mac à basse altitude?
Ah non.
Sur la mer.
Suivant les conditions de météo, de température haute, on arrivait à être supersonique à basse altitude.
Ouais. Ah ouais.
Oui.
Bon. Et ce que je vais faire, parce que...
Alors nous on avait, évidemment, on n'avait pas le droit de voler à basse altitude.
Pour soi, en décalé, c'est pas pratique. Hein.
Oui, il y a un petit peu de décalage.
Ce que je vais faire, vous savez.
Dans tous les cas, c'est très sympa.
Merci, Kimono.
Sympa, Dominique. Merci, Dominique.
Vous savez, c'est terrible, hein, mais on a terriblement débordé ce soir. Mais alors, quel plaisir.
Oui, attends, juste.
Quel plaisir pour moi.
Attends.
Oui, oui.
Soumets-nous une toute petite
Michel,
chose.
Oui, je t'en prie.
Je crois que Mac Linux a.
Ah, oui.
Mac Linux a peut-être une question. Non
oui, on t'écoute, Mac Linux. Il est parti. Bon, bah voilà. Alors, bon, je comprends pas. Bon. Ah, oh là, j'entends beaucoup de bruit.
Bah écoute, je crois que c'est l'heure maintenant. Hein.
Bon, bah écoute, je crois qu'on va boucler. On va boucler tout doucement. Alors, simplement.
Ah, c'est l'heure, alors justement. Bah, alors, faisons l'heure. Le retour. Faisons le retour New York-Paris. On partait à 8h locale de New York, 14h française. On se posait à 17h45. Donc 3h45 bloc-bloc. Et à l'inverse de l'aller, où là on rajeunissait, puisqu'on décollait à 11h, on se posait à 8h45, on rajeunissait. Par contre, au retour, on allait dans le sens contraire de la rotation de la Terre, et là, la nuit tombait à une vitesse, on partait à 8h locale de New York, il faisait nuit, on se posait à 17h45 Paris, la nuit commençait à tomber. Et là, on avait vu 3h30 de jour.
Oui.
C'est-à-dire que la nuit tombait sur le pare-brise avec une vitesse extraordinaire. Ça y est, il fallait aller se coucher, quoi. C'était l'heure. Et l'émission, je crois, se termine.
Ben oui, tout à fait, Patrick.
Exactement.
Mais tu sais.
Et on arrive à l'heure de l'émission. Mais ce que je vais faire.
On t'écouterait.
Je vais lui faire des vols Concorde à Patrice.
Oui.
Comme ça, il va revivre.
Ah, bah peut-être. Oui. Et puis, il va nous apprendre.
Alors, une checklist, s'il vous plaît. Une checklist Concorde, ce serait bien.
Oh, trip pas Milan, excuse-moi, mais c'est très très fort. Et alors, ce que je vais faire, je vais d'abord, on va terminer l'émission. Patrice, franchement, d'abord, moi, je te dis, franchement, toute mon admiration pour ta carrière. C'est vraiment un énorme respect pour cette carrière. Tu m'as fait rêver, j'espère que tu en as fait rêver d'autres. Et moi, je suis assez impressionné.
C'est gentil, merci également, évidemment.
Ben non, mais c'est vraiment très très... Merci mon petit Michel, c'est grâce à toi que Patrice est venu nous parler ce soir. Écoute, un grand merci aussi.
C'est un plaisir.
On va conclure avec un petit air musical, comme je dis, une petite chansonnette. Oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a?
Oui,
qu'il y a
juste pour dire que
oui.
Tu vas donc présenter une musique que Patrice a choisie.
Bien sûr.
Mais il faut savoir que cette musique-là, il la joue comme un dieu aussi.
Et voilà, je voulais en venir. En plus d'être un pilote professionnel, et monsieur se permet encore de jouer de la guitare comme un dieu. Ah là, c'est trop là. Non, je craque là. Bon, bravo Patrice, bravo à toi. Je sais que tu es un super musicien. Et j'espère qu'en plus qu'un jour, tu me montreras comment on pilote un Concorde et comment on joue de la guitare. Enfin, t'as du boulot, hein, je te plains.
En même temps.
Et en même temps. Et pourquoi
non,
pas en même,
en même temps, mais séparément, volontiers, oui.
Eh bien, je vais vous faire à tous, je vous souhaite une très très bonne soirée et un bon week-end. Encore merci Patrice, encore merci Michel. Et puis j'envoie Apache. Allez, tiens, Apache.
Avec plaisir.
Les Shadows, 1960.
Ah, ça, c'est franco-anglais, comme le Concorde.
Comme le Concorde. Allez, bonsoir à tous et super bonne soirée. Bye.
Salut, Claude. Salut à tous. Et bonsoir.
La radio qui décolle.